Comment est-ce qu'on pourrait situer l'état de la conflictualité en France aujourd'hui dans une mise en perspective sur les quelques années récentes? C'est-à-dire, est-ce qu'on assiste à une augmentation des conflits sociaux, à une diminution? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça?
Le problème pour évaluer la conflictualité, c'est à la fois d'échapper un petit peu aux idées reçues sur la conflictualité. La France est un pays de gréviculture, il n'y a que le service public qui est en grève, ou à l'inverse, on connaît un déclin irrémédiable des conflits du travail, il y a d'autres formes de conflictualité qui émergent. Donc d'échapper à ces idées reçues et d'avoir des instruments pour essayer de effectivement savoir ce qui se passe dans les conflits, dans les entreprises et dans les administrations. Et donc le problème est celui du bon instrument. Pendant très longtemps, on a mesuré l'évolution des conflits du travail uniquement avec l'idée de la journée individuelle non travaillée. On additionnait ces journées, c'est les journées de 8 heures, et donc par rapport à cet instrument, le problème c'est qu'on perd toute une série d'autres modalités de lutte, notamment les débrayages de quelques heures, mais aussi des formes de lutte qui n'impliquent pas d'arrêt de travail, comme les manifestations, comme les pétitions. Donc dernièrement, le ministère du Travail a mis en place un nouvel indicateur qui permet justement d'avoir un peu cette palette des formes de lutte. Donc on a pu voir notamment sur la période 2002-2004 une évolution de toutes les formes de conflictualité, à l'exception des grèves de plus de 2 jours. Donc cette forme-là, qui est très difficile à mettre en œuvre, et encore plus dans le secteur privé, diminue. Par contre, tout ce qui est absentéisme, alors ça c'est une forme de conflictualité un peu spécifique, mais manifestations, pétitions, débrayage, tout ça augmente.
Et dans le contexte de la crise économique ou le contexte de tension sociale qu'on connaît actuellement, on entend beaucoup dire qu'il y aurait une radicalisation exceptionnelle des mouvements sociaux. Et quel point de vue le sociologue a sur cette vision?
Je crois que les outils de la sociologie déjà nous permettent un petit peu de voir un peu la construction médiatique actuelle sur l'idée d'une radicalisation, d'une montée des séquestrations, pour pouvoir relativiser cela en fait. Le relativiser de deux manières, c'est-à-dire la première, c'est d'essayer de voir est-ce que sur une période donnée, 2 ans, 3 ans, on a effectivement une montée du nombre de séquestrations. Donc là, on n'a pas encore les outils sur la période récente, mais sur les périodes un petit peu, enfin, justement, le début des années 2000, non, hein, les conflits avec séquestration restent très minimes, en fait, par rapport aux autres formes de conflictualité. Et puis l'autre outil dont on peut disposer, c'est la perspective historique. Et ces formes de séquestration ne sont pas nouvelles. Dans la période post-68, il y avait un nombre important d'occupations et d'occupations avec séquestration, et souvent des formes de séquestration peut-être plus violentes en termes de remise en cause de l'ordre symbolique et de la figure patronale, ce qui visiblement est moins fort aujourd'hui, mais ça il faudrait des études de terrain pour pouvoir le montrer en fait, hein.
Et justement, du côté des études de terrain, peut-être parler de Célatex une minute, parce qu'il y a eu un cas de mouvement qui avait été un peu l'archétype d'une radicalisation nouvelle. C'était celui de cette entreprise Célatex. Est-ce que tu peux peut-être nous dire en deux mots les leçons qu'on peut tirer de l'étude d'un tel cas?
Oui, effectivement, j'avais eu l'occasion de travailler sur ce conflit qui s'était déroulé en 2000. C'était l'usine de Célatex qui produisait de la rayonne, c'était du textile synthétique. Après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, les salariés ont occupé l'entreprise, ont menacé de la faire exploser. C'était une usine classée Seveso, un risque industriel. Et puis, on menaçait ensuite de verser de l'acide dans la Meuse, de polluer la Meuse. Donc, forme de conflictualité qui a paru surprenante à l'époque. Et les journaux, notamment, avaient à dire c'est un retour du ludisme, c'est une forme de syndicalisme révolutionnaire. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était un retournement en fait, de la violence sociale subie par ces salariés. Certains d'entre eux en étaient à leur quatrième plan de licenciement collectif. Et pour eux, bon, il n'y avait pas d'issue. Donc, ils retournaient finalement cette violence du licenciement dans une violence dans le conflit, en fait. Effectivement, se servaient de leur outil de travail comme moyen de lutte. Donc, ce qui m'avait aussi intéressé, c'était la position des syndicats par rapport à ça. Hein, comment est-ce que le syndicat reconnaît comme légitime cette forme d'action? Comment il l'explique? Comment il la justifie? Et là, ce qui était intéressant à voir, c'était la façon dont le syndicat avait dit, mais finalement, la violence, elle est d'abord patronale, hein, puisqu'on n'a pas il n'y avait pas d'employeur pour négocier un plan social. Donc, voyons d'abord cette violence pour comprendre cette autre forme de violence qui est le fait de menacer de polluer, par exemple, la Meuse.
Sur les syndicats, dans la construction médiatique un peu d'une radicalisation des mouvements sociaux, il y a l'idée que en fait il y a des mouvements politiquement beaucoup plus radicaux que les syndicats institués qui en quelque sorte prennent l'initiative des mouvements et qui donc débordent complètement les partenaires sociaux. Et est-ce qu'on peut dire que les syndicats aujourd'hui ont une capacité de régulation des conflits sociaux ou au contraire que le contexte et ces formes d'action qu'on aperçoit peut-être on monte en épingle, témoigne d'une difficulté de ces institutions à réguler les conflits de travail.
Oui, là aussi je pense qu'il faut relativiser sur cette idée des syndicats qui sont nécessairement dépassés par d'autres formes de conflictualité. À partir de cette enquête statistique qui s'appelle donc l'enquête réponse, hein, on a pu voir qu'en fait il y avait une corrélation tout à fait nette entre la présence des syndicats et des formes de conflictualité avec l'arrêt de travail. Donc la présence des syndicats permet souvent de dépasser des formes de mécontentement individuel pour aller vers une forme d'action collective. C'est la médiation souvent nécessaire pour avoir ce processus finalement, hein, de mise en forme de la revendication et d'organisation de la lutte. En même temps, il y a plein de formes de lutte qui échappent aux syndicats. Si on essaye de réfléchir aux formes de résistance ordinaire dans le travail, des formes de ralentissement du travail, de la production, des formes de façon de ne plus s'impliquer dans le travail, l'absentéisme aussi, tout ça, c'est des formes plus individualisées et qui échappent largement aux syndicats. Et ça renvoie aussi à la question de l'emprise des syndicats par rapport à l'évolution du travail et du contenu du travail, en fait. Donc je crois que plus que l'idée d'un débordement des syndicats par des nouveaux types de mouvements sociaux, il y a plutôt cette question-là, de la façon dont finalement ils n'arrivent pas à comprendre ou à saisir complètement ce qui se passe dans le travail, en fait. Hein.
Donc s'il y a un décalage, enfin s'il y a un domaine où les syndicats ne seraient pas à même de produire cette régulation hein, qui correspond à leur rôle, c'est plus dans la vie quotidienne à l'usine ou dans les formes les plus régulières du travail.
Tout à fait, c'est cette question d'être en... L'emprise des syndicats, la façon d'être en lien avec ce que vivent les salariés au quotidien dans leur activité de travail. Et c'est plutôt ça le défi pour les syndicats, en fait. Hein. Et de comprendre ce qui s'y joue en termes de violence symbolique et de violence aussi, de violence sociale en tant que telle.
Et alors, cette violence sociale, donc, en fait, c'est à partir de cette violence sociale quotidienne, permanente et souvent difficile à construire dans des mouvements sociaux ou à il est difficile de répondre par des mouvements sociaux collectifs. Donc c'est cette violence-là qui serait à l'origine de ces mouvements auxquels on assiste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un effet particulier qui est lié à la conjoncture, pour le dire en un mot? Est-ce que, même de manière intuitive, on peut penser que la violence du choc économique renforce une violence qui est déjà là et a des conséquences particulières.
Ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas quand un conflit va prendre et pourquoi il prend, en fait. Et quand on essaye de réfléchir un peu en termes de dynamique de conflit, on se rend compte que parfois un conflit démarre sur un motif et qu'en fait, au fur et à mesure que se construit l'action collective, il y a d'autres motifs qui apparaissent, d'autres choses qui sont dites dans l'action. Donc il est probable qu'il y ait un effet de conjoncture, c'est-à-dire l'annonce de fermeture ou la décision de fermer une entreprise va déclencher quelque chose où on va retrouver finalement ce qui s'est accumulé pendant des années en termes à la fois dans l'organisation du travail, dans les relations hiérarchiques. Et donc oui, il peut y avoir cet effet de conjoncture là. Si je reviens sur l'exemple de Celatex, c'était des salariés qui par exemple avaient accepté pendant les 4-5 années précédant la fermeture, il y avait eu une forte inondation, ils avaient nettoyé toute l'usine, ils avaient accepté de réduire leur congé payé, ils avaient accepté de travailler au-delà des 35 heures et tout ça pour aboutir à une forme de conflit qui après est très violente parce qu'il y a tout ça qui a été accumulé, on a fait tous ces efforts, ces sacrifices pour l'entreprise qui ne sont pas reconnus, donc il y a une question aussi de reconnaissance sociale en fait. Hein.
Derrière, parce qu'il y a au-delà de ces conflits du travail qui donnent lieu à des formes d'action qui sont très très médiatisées, il y a d'autres mouvements sociaux, on peut penser notamment à celui des enseignants-chercheurs par exemple. Et est-ce que le sociologue de l'action syndicale ou des mouvements sociaux identifie des perspectives de convergence, j'allais dire des luttes dans l'espace social? Ou est-ce qu'il y a plus une atomisation et des logiques à chaque fois singulières qui jouent?
Non, la grosse difficulté, effectivement, c'est un petit peu cette sectorisation des luttes, hein, dans la mesure où au sein de différents secteurs d'activité, disons que à la fois la difficulté à contester ce qui est présenté comme des réformes, à en faire l'analyse, à produire des perspectives pour une contre-réforme, et puis à mobiliser tout ça, déjà un petit peu capte et prend toutes les énergies en fait, et la difficulté à voir que ce qui se passe dans les différents secteurs peut être rapproché et qu'il pourrait y avoir des convergences. Donc c'est plutôt un enfermement dans chaque secteur et la difficulté à tenir aussi sur la durée. Donc je crois que c'est autant de facteurs qui rendent compliquée la convergence des luttes en fait, même si celle-ci peut être recherchée. Et puis il y a bien sûr le rôle de la médiation finalement des organisations pour essayer de dire des organisations ou des collectifs, plus ou moins structurés en fait, pour pouvoir mettre en mots le fait qu'on peut trouver des éléments communs dans les différentes attaques en fait, qui ont cours. Hein.